Les meeples sont de sortie. C'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique les amis, on est le lundi 28 octobre, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler d'un jeu expert. En deuxième partie d'émission on retrouvera Ludo comme tous les lundis pour le point sur les J avec la contrefaçon dans le jeu de société, et comment lutter. Tout un programme, C'est Ludique, ça commence tout de suite.
C'est la pause déjeuner, Matt pour t'inviter à jouer. C'est ludique, encore plus de nouveautés.
Et au menu aujourd'hui, c'est Arborea de Dani Garcia, un jeu illustré par Nico Gendron et Javier Engolem. Dans ce jeu expert édité par Pizzi Games, vous allez incarner un esprit protecteur qui guide les villageois, dont le but sera de recréer un écosystème après un cataclysme qui a détruit tout, afin d'y accueillir donc des créatures. Arborea est un jeu de pose d'ouvriers, pose de tuiles, placement de cartes et de programmation pour 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans. Alors au niveau de la mise en place, vous allez poser au centre de la table le plateau très coloré dans un univers onirique avec différentes pistes de pèlerinage, avec des tuiles qui avanceront, des pistes de ressources, d'esprit, de saison, de terre frontalière. Il y a beaucoup de choses sur le plateau. Chaque joueur récupère aussi un plateau personnel où seront posés ses villageois, les adultes, les jeunes et les anciens. Vous commencez la partie avec deux adultes et un jeune de disponible, sachant qu'ensuite, les adultes, vous pouvez les jouer tout le temps, alors que les jeunes et les anciens, faudra les récupérer. Alors au niveau matériel, vous avez des cartes avec les écosystèmes, et vous avez beaucoup de jetons en bois, et notamment les créatures. Il y a pas mal de choses à préparer, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Mais alors comment on joue ? À votre tour, vous avez deux possibilités. Soit placer un villageois sur l'une des tuiles pèlerinage, soit avancer l'une des tuiles avec les différents villageois présents dessus. Sachant que tout le monde peut quitter la tuile pour descendre et se placer devant le sentier en question pour faire son pèlerinage. Le joueur actif, mais aussi les autres joueurs qui ont des villageois de présent. Si vous posez votre villageois sur une icône saison, vous avancez l'un de vos cubes sur la piste en question. Ce sont des multiplicateurs par rapport à différents bonus. Ensuite, le joueur actif va pouvoir activer au maximum deux de ses villageois. Les autres joueurs ont ses villageois qui sont descendus mais pourront les activer que plus tard. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il va récupérer toutes les ressources et différents bonus comme piocher des cartes biomes, récupérer des villageois, attirer des créatures, faire un cadeau aux sages, jusqu'à atteindre le bout du sentier et replacer son villageois sur son plateau. Les adultes, je vous l'ai dit, on peut les récupérer tout de suite, mais les jeunes et anciens, il faudra les gagner. Les ressources gagnées, vous allez les monter sur le tableau des ressources. Attention, elles sont partagées. Si vous ne les utilisez pas, les autres pourront en profiter à leur tour, mais vous allez gagner des points de victoire. Passons à la troisième étape, la création de biomes à partir de cartes que vous avez récupérées. Vous allez pouvoir la construire en dépensant les ressources que vous avez gagnées précédemment ou celles gagnées par les autres. Si vous validez la carte, vous pouvez la poser. À partir de maintenant, vous avez un écosystème qui se développe au fur et à mesure de la partie en plaçant vos cartes. Et désormais, vous pouvez aussi attirer des créatures que vous avez capturées sur votre plateau lors de la phase précédente. Attention, l'emplacement où sont posées les créatures sont importants car cela va définir vos points de victoire. Par exemple, une grenouille fongie rapporte 3 points par arbre qui lui est adjacent. Une fois un certain nombre de créatures atteintes, en déplaçant un soleil, la fin de partie va prendre fin. Et puis, il ne restera plus que 2 tours pour faire tout ce que vous avez prévu. Et croyez-moi, c'est bien trop court. Ensuite, c'est le moment de passer au scoring. On compte les points d'esprit tout au long de la partie. Vous avancerez ou reculerez sur cette piste d'esprit. Attention, ça vous fait des points en moins si vous allez trop bas dans cette piste. Les points de créature et les points de saison sont aussi à compter. Il y a beaucoup de choses. Celui à qui a le plus de points, remporte la partie. Alors, ce que j'en pense d'Arborea, c'est un jeu expert. Et ce n'est pas la première partie. Vous allez comprendre tout ce qu'il faut faire et dans quelle direction aller. Mais lors des parties suivantes, vous allez voir ce qu'il ne faut surtout pas négliger. La piste saison avec ses multiplicateurs notamment qui peut creuser de gros écarts de points. Mais c'est pas tout. Les animaux qu'il faut placer sur leur biome et les points d'esprit. À noter cette mécanique originale avec le déplacement des ouvriers sur les tuiles pèlerinage et le partage des ressources. L'interaction est vraiment bien présente, très bon jeu mais très casse-tête. Si vous aimez vous torturer le cerveau, ce jeu est fait pour vous. Ça s'appelle donc Arborea et ça vient de sortir donc chez Pizzi Games. Voilà, allez, d'ici quelques instants on va retrouver Ludo pour le point sur les J.
La pause du midi, il te donne son avis. C'est ludique, c'est le point sur les J.
Et le point sur les J, eh bien, c'est tous les lundis avec Ludo. Salut Ludo.
Salut Matt, bonjour à toutes et à tous.
Alors aujourd'hui, on va parler de contrefaçon, un sujet qui fâche dans le milieu du jeu de société.
Ben ouais, contrefaçon dans le jeu de société, comment lutter, et on va s'appuyer déjà sur l'INPI, ouais, qui est l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, pour un peu débroussailler ce mot de contrefaçon. Alors, il faut savoir qu'il existe autant de contrefaçons que de types de création. Hein. Donc quand on met le doigt dedans, aïe, aïe, juridiquement parlant, c'est un marasme, c'est un, ouais, voilà, c'est un monde à part. Alors, il y a différents critères qui permettent quand même d'identifier. Il y a la contrefaçon des identifiants commerciaux, la contrefaçon des créations artistiques et du design, la contrefaçon des créations techniques, la contrefaçon de logiciels.
Okay.
Pour le jeu de société, on va nous s'attarder un petit peu sur les identifiants commerciaux et les créations artistiques et le design, parce que c'est en fait, il n'y a pas de logiciel ou de choses comme ça, hein, donc dans le jeu de société, donc c'est plutôt ça. La contrefaçon, elle va se caractériser par de la reproduction, de l'imitation ou de l'utilisation totale ou partielle d'un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation de son propriétaire.
Mmh.
Donc, concernant le jeu de société, ça équivaut à vendre la reproduction d'un jeu sans l'accord de l'auteur et de l'éditeur du jeu, et aussi de l'illustrateur s'il y en a.
Ouais, on dit alors, bien vendre. Hein.
Oui, c'est ça. Et c'est important. Mais tu vas voir que c'est pas que, parce qu'en fait, les actes de contrefaçon, c'est la reproduction, l'imitation, la suppression ou la substitution de la marque sans autorisation de son propriétaire, mais c'est aussi, et ça c'est important de le souligner, la détention, la vente ou l'importation de produits comportant une marque contrefaisante. C'est-à-dire ouais, que la simple détention fait de toi quelqu'un qui fait de la contrefaçon, même si tu n'en es pas à l'origine. La contrefaçon des droits d'auteur, ça va être par contre la reproduction d'une œuvre sans autorisation. Et c'est vrai que dans le jeu de société, eh ben, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que c'est une œuvre? Est-ce que c'est un acte commercial? Est-ce que ça appartient? Les gens ne savent pas trop. Le jeu, ça appartient à qui? Ça appartient à l'auteur? Ça appartient à l'éditeur, au distributeur? Enfin, tu vois, c'est assez fou, ouais, déjà comme concept. Mais en plus, effectivement, ça va dépendre aussi des contrats qui sont passés, surtout pour les illustrateurs. Est-ce qu'ils laissent libre droit ou alors juste l'utilisation pour le jeu à leur création artistique? Enfin, bon, bref. C'est déjà très compliqué en soi, mais en plus, bah, quand on parle d'un domaine particulier, ça va dépendre aussi en fonction du différent produit. Mais mon jeu est-il contrefait? On va voir qu'il y a quelques petites pistes déjà qui vont vous, qui doivent normalement vous poser des questions. Alors,
okay,
par exemple, un lieu de vente inhabituel.
Oui.
Jeu de société, par exemple, que tu vas vendre dans, je sais pas moi, sur un marché à l'autre bout du monde,
oui,
etc.,
sur AliExpress,
un marché alimentaire, bon, c'est un peu particulier, tu vois. Tu peux,
ouais,
te poser la question de se dire,
tiens,
qu'est-ce que ça fait là? Un vendeur mal identifié aussi. Quelqu'un, t'arrives pas trop à voir si c'est une boutique, si c'est un particulier, enfin, tu vois, c'est un peu lugubre, tu sais pas trop, t'arrives pas à retrouver l'origine du vendeur. Bon, ça sent pas bon non plus, ça. Le prix, un prix particulièrement bas. Alors,
ah oui,
en dehors du marché de l'occasion, quand on a accès à du neuf, eh ben, c'est pareil, ça pose question. Est-ce que, bah, pourquoi, en fait? Alors, c'est souvent sur les fringues, hein, qu'on voit ça, de se dire, bah, tiens, ma paire de TN Nike, là, qui vaut d'habitude 150 euros, là, elle est à 32 euros.
Wow.
Bon, tu vois, tu te dis, ça sent pas bon.
En gros, si tu as un Splendor à 10 euros, 9, c'est pas normal.
Ça sent pas bon, mais encore une fois, c'est juste des pistes, parce que tu peux te dire que la personne, en fait, elle a envie de faire un vide-grenier, elle n'arrive pas à le vendre,
oui,
elle s'y connaît pas trop, enfin, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Donc, ça veut pas forcément dire que c'en est de la contrefaçon. Bon, t'as le produit dans les mains, tu vois qu'il y a des défauts, que la qualité, on voit pour les Splendors, contrefaits, et les jetons sont en carton.
Mais oui,
bon,
voilà,
tu te dis, ok. Bon, là, c'est bizarre. Enfin, je vois pas Space Cowboy qui fasse des jetons en carton. Alors que à la base, quand même, les jetons de Splendor sont en bon gros plastique. Ils sont importants
jetons
dans la manipulation.
Casino. Ouais.
Donc, ça serait bizarre. Les étiquettes aussi, elles peuvent être mal imprimées ou il y a des fautes d'orthographe dessus. Tu vois,
ouais.
Moi, je me rappelle une fois, j'ai acheté des petites voitures pour mon fils, des petites voitures Cars.
Ouais.
Et en fait, sur le papier, c'était écrit Disney, et ah non oui. pas Disney.
Ah oui.
C'était pas un O, c'était pas un E, c'était un O.
Ah oui, forcément.
Et là, tu te dis, ah, bah, en fait, c'est de la contrefaçon.
Oui.
Parce qu'ils font pas d'erreur, hein, Disney, quand
bah
ils
non.
écrivent Disney, normalement.
Ils vérifient.
Ouais, et puis, alors, ça, c'est peut-être plus le dernier point pour des produits un peu, produits de luxe, mais on peut aussi s'inquiéter quand on voit un emballage qui est un peu bizarre. Qui est un peu, voilà, souvent sur certains produits, mais plutôt peut-être sur des produits haut de gamme, quoique sur des jeux de société que tu achètes neuf avec des cartons et des cartons, tu pourrais avoir aussi un carton d'origine ou alors un sous-carton. Si bah, là, tu vois que c'est un peu bizarre, ça peut aussi te mettre sur la piste. Alors, souvent, les achats se font sur Internet et là aussi, en fait, il y a des petits trucs à essayer de se dire, donc il faut bien vérifier sur le site que le nom du professionnel et qu'il a ses coordonnées complètes, c'est toujours mieux, et puis de toute façon c'est une obligation légale. Donc si vous allez sur un site où il n'y a pas de coordonnées, ne serait-ce que même pour gérer, ne serait-ce que, qu'un litige ou poser une question, il faut que c'est obligatoire que le professionnel y soit joignable. Que ne figure pas seulement une boîte de dialogue, une boîte postale ou un numéro de téléphone surtaxé, hein, parce que parfois il n'y a que ça et tu te dis...
Bon, oui, là voilà, c'est pas
c'est
bon.
C'est bizarre. Que le prix TTC et les conditions générales de vente soient clairement mentionnés sur le site, ça c'est aussi une obligation légale, et que les frais et la date de livraison, les modalités de paiement, le service après-vente, le droit de rétractation et les garanties légales soient clairement mentionnés. Donc ça c'est pour tous ceux qui vont acheter sur un site internet.
Ok.
Alors, la majeure partie des jeux contrefaits se retrouvent maintenant principalement sur des plateformes d'achat en ligne et viennent presque intégralement d'Asie et particulièrement de Chine. Logique, hein,
ben,
là
oui.
où il y a les usines. Hein. Alors, même si ça arrive que très rarement, sachez que l'achat et la détention de produits contrefaits est aussi sanctionné par la loi. La détention de contrefaçon, comme la vente, hein, constitue un délit. Les vendeurs et détenteurs de marchandises de contrefaçon peuvent être sanctionnés à ce titre. Les sanctions pénales peuvent aller jusqu'à 300 000 euros d'amende. Ça fait cher.
Ça fait beaucoup.
Le Splendor.
Ouais.
Et 3 ans de prison. Bon, on est d'accord, hein, c'est plus la vue du bâton, là. Si
oui.
tu prouves ta bonne foi auprès de quelqu'un qui a porté plainte, bon, je pense que la justice, si t'as pas non plus... l'habitude hein, de faire ce genre de choses, la justice ne te condamnera pas.
Mais justement, bon. Ludo, est-ce qu'on sait si les éditeurs luttent contre les contrefaçons ?
Ben, je vais y revenir, parce
okay.
que j'ai aussi des petites informations personnelles récentes.
Okay.
Donc, tu vas voir. Donc, alors, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, à part ce genre de réflexe quotidien, de bien regarder les différents, tous les critères que j'ai donnés. Il n'y a pas grand-chose à faire pour lutter contre la fraude, en tout cas pour le point de vue du consommateur. Pour les ayants droit, donc comme tu dis, pour les éditeurs, le réflexe à faire en tant que consommateur, et moi c'est ce que je fais systématiquement, c'est d'envoyer des liens directement à l'éditeur. Alors l'éditeur, parfois, il fait partie d'un gros groupe comme Asmodée ou Hachette, c'est
ouais.
plus facile pour eux parce que ils ont une batterie d'avocats,
ouais, bah
et
oui.
Ils ont déjà en fait des dossiers en cours. Alors, il faut savoir que les plateformes de vente en ligne, c'est une grosse boutique. C'est-à-dire que eux sont responsables de pas grand-chose, en fait. Hein. donc, en fait, tu peux porter plainte contre eux, mais c'est souvent, ils sont souvent pas hébergés en France. Donc, c'est un peu compliqué. On parle des AliExpress, etc., etc., tout
ouais.
cela. Par contre, bah, normalement, il y a une traçabilité sur le vendeur ou le producteur du bien qui est mis en vente.
C'est-à-dire okay.
que normalement, la plateforme s'engage quand même à pouvoir... enfin, normalement, la plateforme doit s'engager sur des mentions légales, de ne pas vendre de la contrefaçon, etc.
Oui, oui.
Eux, après, ils se cachent sur le fait de se dire « Ah ouais, mais c'est passé entre les mailles du filet, etc. par rapport à nos multiples contrôles. » Bref, en tout cas, c'est souvent que les entreprises concernées, donc comme je te disais, sont pas domiciliées en France, et c'est compliqué même pour les éditeurs de faire valoir leurs droits. Mais il faut quand même les inciter, ou en tout cas, eux, normalement, ils vont faire le nécessaire, c'est-à-dire faire des dépôts de plainte. Et normalement, je ne sais pas, après, moi, dans la boucle, je pense que c'est un peu jeter une pierre dans un océan, mais si on ne fait rien, éthiquement parlant, il n'y aura pas de raison que ça change non plus.
Bien sûr.
Alors pour l'État, même pour l'État, hein, c'est surtout pour les éditeurs de jeux, parce qu'il y a une perte de chiffre d'affaires, de part de marché, parce qu'en effet les entreprises sont plus réticentes à vendre leurs produits, une perte pour le commerce national due aux achats de contrefaçon à l'étranger, une perte d'image et de notoriété aussi, comme je te dis, sur le Splendor avec des trucs en carton, quelqu'un qui s'y connaît pas trop,
mais oui,
va se dire, attends, cet éditeur, franchement, c'est naze, enfin le matériel, il est pourri, quoi. Donc en fait, bon voilà. Alors c'est pas sur toutes les contrefaçons qu'il y a des différences comme ça, mais et puis bah des dépenses supplémentaires si les entreprises choisissent de lutter contre la contrefaçon. Alors pour les gros groupes, comme je te l'ai dit, il y a déjà en fait des mises en place de services juridiques qui s'occupent de ça entre autres. Pour les petits éditeurs ou ceux qui s'auto-éditent, bon bah là c'est même pas la peine, c'est peine perdue. C'est-à-dire que tu vas pas aller engager un avocat au pénal, etc.
Oui.
Tu vas faire peut-être ton dépôt de plainte à la gendarmerie ou à la police la plus proche, mais bon, il y a peu de chances que derrière ça fasse quelque chose. Surtout qu'il faut savoir que ces sites-là, les usines en fait ferment et réouvrent, etc. au fur et à mesure. Donc en fait, remonter jusqu'au déposer plainte contre la boutique en ligne et ensuite elle va se rapprocher de l'usine qui n'existe plus. Enfin bon, bref, tu vois un peu le truc. En général, pour une boîte de jeux, c'est pareil. Il n'y en a pas 15 000 qui sont mises en vente, donc ils font attention.
Mais bien sûr. Ouais.
Les éléments donc, sur un jeu de société sont quand même pensés et fabriqués pour que l'expérience de jeu soit réussie. Et donc, c'est vrai que si jamais une ou plusieurs de ces composantes n'est techniquement ou physiquement pas à la hauteur, bah, on ne va pas vivre la même expérience qui est promise par l'éditeur. Et donc, c'est ça aussi qui va être embêtant, plus, enfin pas plus, mais autant qu'une perte d'argent, parce que sur quelques jeux, c'est surtout l'image en fait de l'éditeur, si on se rend pas compte que c'est une contrefaçon. Alors c'est pas toujours le cas, moi j'ai vu, alors je vais te faire un petit point quand même sur les jeux de société tendance là actuellement, si t'en as quelques-uns, vas-y, dis-moi seulement quelques-uns, j'ai fait une petite liste d'une dizaine, on va voir si ça rentre dedans.
Les tendances, bah, ou les classiques ou les tendances?
Bah vas-y, en fait,
Aventurier du rail.
Alors pas trop. Vraiment, celui-là, je pense qu'il y a trop de matériel, trop de petits trucs en plastique, et du coup, il y a pas trop. Moi, j'ai pas vu beaucoup, peut-être un, mais vraiment, c'est très rare.
D'accord. Seven Wonders,
c'est pareil, en fait, il y en a pas beaucoup.
D'accord.
Moi, j'en ai pas vu beaucoup du tout.
Ok. Est-ce qu'on a des jeux récents ou pas du tout?
Oui, alors, il y a les incontournables, le Uno, le Double. Alors, le Double, t'as Friends, t'as Pat Patrouille, t'as... Des Double, t'en as, à Tire-Larigot. Moi, j'en avais acheté un, juste pour voir la qualité. Donc, j'ai acheté un Double Gruffalo.
C'est quoi ça?
Ben, Gruffalo, en fait, c'est une histoire pour les enfants et c'est aussi un court-métrage animé.
Okay.
Et donc, en fait, ben, voilà, c'est un petit monstre dans une forêt. Ben, écoute, Double Gruffalo. Voilà.
Mais bien sûr, il n'y a pas de licence aujourd'hui autorisée.
On dirait un vrai. Hein,
d'accord.
Ouais, ouais. Alors, après, bon, ben, t'as le Splendor, on en a parlé.
Ouais.
Mais tu vas aussi avoir le Dixit, le Puissance 4, le Kies.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Mais dans les plus récents, alors, tu vas avoir du Patchwork.
D'accord. Ok.
D'accord. J'ai vu du Wingspan.
Ah ouais, du Wingspan,
ouais.
Non.
J'ai vu du Sky Team pas mal en ce moment.
Ah ouais.
Du Sea Salt and Pepper.
Ah oui.
Du Sushi Go et du Tokaido.
D'accord, mais alors.
Et même du Pandemic.
Quand on parle de par exemple Sea Salt and Pepper, comment tu reconnais? C'est juste parce que il recopie exactement les mêmes cartes?
Alors moi je l'ai pas eu dans les mains.
Oui.
Moi je vois juste les photos si tu veux. Si j'ai acheté un blocus à 4 euros ou 5 euros sur une plateforme qui s'appelle pas blocus hein, d'ailleurs.
Ah bah oui,
là,
du coup ils changent le nom.
Ils ont pas. Oui mais parfois ça s'appelle the strategy game. Ils
D'accord.
sont pas foulés. Le matériel est plus petit. La version est de moins bonne qualité que blocus.
Oui.
Donc bon je sais pas combien de temps ça va durer. Mais pour le coup là ils ont tout copié sauf le nom.
D'accord.
Et puis la boîte aussi. Par contre pour Sea Salt and Pepper moi je pense que en fait ce sont les usines qui ont des contrats pour fabriquer le jeu original et qui vont, comme pour les fringues, en fait, garder parfois des pièces de jeu ou en tout cas des sorties, des impressions qui n'ont pas passé le contrôle qualité à 100%.
D'accord.
Et qui vont se dire, bon bah voilà, on va faire des boîtes en plus.
Ah oui, ok.
Donc, Une petite pensée aux éditeurs qui vont devoir donc peut-être voir avec leurs usines en Chine, hein, afin d'essayer de stopper tant bien que mal cette hémorragie de fichiers, parce qu'à mon avis c'est principalement ça. Donc pour les consommateurs, privilégiez plutôt l'achat des jeux neufs ou en occasion, hein, sur des sites connus et reconnus comme étant des revendeurs officiels ou des ludicaires ou des grandes enseignes. Alors faites quand même attention en général au marketplace, hein. Alors même Amazon s'y met, faut faire gaffe, AliExpress, Shein, machin, qui ne vérifient pas toujours la provenance et la qualité des produits hébergés et vendus par des tiers. Donc un petit mot d'ordre pour finir, il vaut mieux acheter un jeu plutôt qu'acheter un prix.
Exactement, merci beaucoup Ludo, c'est là-dessus donc qu'on va terminer. Et on aura l'occasion aussi de parler, parce que est-ce qu'on peut copier ou rethématiser un jeu ? Ça sera une question aussi à se poser. Parce que...
Ça c'est sur les droits d'auteur, ouais. Les droits de transmission, les droits de production effectivement.
Ouais. Parce que moi j'avais vu souvent les éditeurs disaient qui toléraient que tu réalises une copie pour toi-même si tu avais une version originale. Ça a été le cas par exemple pour les Love Letters, ouais, par exemple. Tu fais
Il y a des éditeurs qui mettent aussi des fichiers en ligne.
Ouais, voilà.
Exprès pour que tu puisses, en fait, Unlock l'avait fait. Si tu veux, voilà, tu peux aussi avoir des fichiers, tu peux avoir des choses. Alors, il faut toujours mieux, quand c'est comme ça, quand vous voyez des trucs que vous voulez vous faire toi, vous-même, une extension, des trucs un peu particuliers sur votre jeu, il vaut mieux quand même, on sait jamais, demander à l'éditeur ou des versions XL. Je vois beaucoup des ludothèques, donc des collègues à moi, qui font des versions XL de certains jeux,
ouais,
et qui ne demandent pas à l'éditeur. Alors, ça craint rien pénalement parlant, mais c'est juste une question de bon sens, de bons réflexes.
Ouais.
Quand les produits sont protégés, il faut demander à l'éditeur, en tout cas à l'ayant droit, si effectivement ça ne dérange pas. Surtout que la plupart du temps, honnêtement, s'il n'y a pas derrière une vraie volonté d'enrichissement personnel, de création de société ou de choses comme ça,
tu
vois, c'est extrêmement rare, l'éditeur il va accepter. En fait, lui, ça va lui faire aussi de la publicité gratuite,
bien
d'avoir
sûr
des événements avec son jeu grande, enfin taille XXL, ou alors d'avoir peut-être une petite extension comme ça qui tourne, et puis peut-être, pourquoi pas, peut-être qu'un jour l'éditeur vous demandera les fichiers, et puis que vous serez à l'origine d'une extension de votre jeu préféré, parce que vous avez fait un fan-made, comme on dit, chez vous, pour votre famille.
Peut-être, mais par contre, hein, si vous faites un love letter, je sais pas, pour un anniversaire sur le thème de Mickey, Disney, tout ça, évitez de le propager un petit peu partout, parce que forcément, aurez Asmodée, et deux, vous aurez Disney.
Mettre les fichiers en ligne, c'est la première erreur à faire. En fait.
Oui, voilà.
Voilà. Les transmettre sur une adresse privée à quelqu'un directement,
c'est
il n'y a pas de problème.
Mais
par contre, si vous les mettez en ligne, il faut avoir l'accord des ayants droit avant. Même si, encore une fois, ça ne craint pas grand-chose, c'est une question de bon sens et d'éthique.
Voilà. Super, bah merci beaucoup Ludo pour ce point sur les J. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau point sur les J.
Oui, et j'ai pas le sujet en tête là, donc ça sera une surprise.
Eh ben ça sera une surprise, très bien. Allez, à lundi, salut Ludo, bonne semaine.
Bonne semaine à tous, au revoir.